Le journal était présenté par Sarah Petitbon, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est le genre d'information qui peut créer la panique chez ceux qui sont concernés par ces révélations et qui, en général, fait également beaucoup réagir. Dernier exemple, dans le magazine Closer, la semaine dernière, un article, une enquête titrée « Oui à l'amour pour tous » sur Florian Philippot, vice-président du Front National, en week-end à Vienne, en Autriche, avec son ami journaliste de télévision, nous dit Closer. Avalanche de réactions, les pour, les contre de ce genre de révélations. En tout cas, la presse, certains journaux plus exactement, s'était déjà interrogé sur l'existence d'un lobby gay au Front National. Libération a parlé de Steve Briouat, élu maire FN d'Hénin-Beaumont en mars dernier, dans le Pas-de-Calais. Maire FN est homosexuel. Toutes ces informations avaient déjà été publiées avant les révélations de Closer. Florian Philippot, François Hollande, Julie Gayet, Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, François Mitterrand, Mazarine Pinjot. Vie privée des personnalités. Les journalistes doivent-ils tout révéler? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités. En studio, Laurence Piau, directrice de la rédaction de Closer, et vous venez de publier chez First Document Scoop Story. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match, un hebdomadaire habitué au Scoop également. Bonjour.
Bonjour.
Raphaël Baquet, grand reporter et l'une des enquêtrices vedettes du journal Le Monde. Votre dernier livre avec Ariane Chemin, Les Strauss-Kahn, est paru chez Point Édition. Bonjour.
Bonjour.
Nos deux regards extérieurs aujourd'hui, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henton et son ordinateur pour les images et le web. Bonjour.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes, derrière la console aujourd'hui, Pierrick Monsigny. Le clin d'œil en fin d'émission de Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
L'actualité ce matin, c'est la une de Closer. Florian Philippot, oui à l'amour pour tous. Cette photo donc, qui révèle l'homosexualité de Florian Philippot. Beaucoup de réactions politiques indignées, beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux dès la parution de ce magazine dénonçant un outing.
Chacun a le droit à avoir un espace privé. Je le dis quand ça touche Florian Philippot, je le dis aussi quand c'est le président de la République. La vie privée, c'est sacré. Mais je vais vous dire, tout ça, c'est de la faute des magistrats. Car les magistrats qui sont saisis de procédures pour violation de la vie privée condamnent les journaux à des sommes qui sont dérisoires. Alors que les choses soient claires, à partir du moment où ils vendent je ne sais combien de dizaines de milliers d'exemplaires supplémentaires en violant la vie privée des uns ou des autres, alors ils continueront à le faire parce que c'est rentable.
Je considère que tout ce qui est volé, photos volées, informations divulguées que sur la vie privée de personnes ou de personnalités publiques qui ne souhaitent pas le porter à la connaissance du public, tout cela est assez méprisable.
Voilà, on vient d'entendre l'extrait d'un journal de LCI la semaine dernière et la réaction de Marine Le Pen sur Europe 1 au lendemain des révélations de Closer. Également, Marisol Touraine, ministre de la Santé, sur France Info, également la semaine dernière. Laurence Piau, quel est le déclic qui fait que bien, vous décidez d'enquêter sur Florian Philippot et de révéler son homosexualité?
Le déclic qui fait qu'on enquête sur Florian Philippot, c'est le même déclic qui fait qu'on enquête sur Emmanuel Macron quand il devient une personnalité politique de premier plan. Il y a un homme politique nouveau qui arrive, qui prend une place importante. Et c'est vrai qu'on a déjà traité de Marine Le Pen. Et il se trouve que Florian Philippot, c'est le deuxième invité des matinales radio, télé, derrière Marine Le Pen. Donc on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui apparaît de plus en plus. Et on commence effectivement à s'intéresser à quelle est sa vie personnelle. Et on, effectivement, il y a ce week-end à Vienne avec lequel il est avec un ami et pas une amie. Et tout part de là. Donc on traite cette histoire. Est-ce qu'on devait s'interdire de la traiter parce qu'il s'agissait d'une relation non pas hétérosexuelle mais homosexuelle? On est parti du principe que à l'heure du mariage pour tous, on devrait traiter de la même façon un couple homo qu'un couple hétéro. Et tout est effectivement parti de là. Et c'est vrai que, enfin, on y reviendra peut-être, mais le véritable enseignement de cette histoire et de tout le... de toutes les réactions assez violentes que cette histoire a suscité, il y a eu des pour, il y a eu des contre, hein, vous le souvenez, il y a eu des pour aussi, il y en a eu pas mal, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être, enfin, l'homosexualité en France est perçue comme quelque chose d'anormal. Voilà, le vrai constat, pour moi, il est là.
Mais Laurence Puyot, alors, Florian Philippot est quelqu'un de discret en général, il n'a pas la réputation de dire où et comment il passe ses week-ends. Vos révélations arrivent aussi après le congrès du Front National, où Florian Philippot mesure qu'il n'a peut-être pas la popularité qu'il espérait, contrairement...
Si vous imaginez qu'à
Closer, on sait aussi qu'il a des ennemis au Front National.
Oui, mais si vous imaginez qu'à Closer, qui est un magazine People, on est au courant de... Évidemment, on a entendu parler, comme tout le monde, de ce congrès, mais on sort pas les histoires en fonction de l'agenda politique. On nous avait dit exactement la même chose, et ça avait fait rigoler à l'époque sur l'affaire Hollande-Gaillet, où on était sorti le 10 janvier. Le 14 janvier, il y avait la conférence, une importante conférence de presse présidentielle, qui était supposée être un tournant du quinquennat. Très honnêtement, quand on a dit qu'on n'était pas au courant de cette conférence de presse, tout le monde a gentiment rigolé. La vérité, c'était celle-là. Quand on a des histoires, on sort des histoires, et on les sort le plus rapidement possible. Parce que les réseaux sociaux, parce que tous les gens qui ont pu croiser Florian Philippot à Vienne et qui sont susceptibles de tweeter sur le fait qu'ils l'ont croisé en compagnie de ce monsieur dont on révèle juste qu'il est journaliste télé, il y en a 5000 en France, ça peut aussi transpirer très vite. Donc on a une exclue, on la sort, peu importe l'agenda politique et la dimension politique qui, franchement, n'est pas du tout l'histoire de Closer et le terrain de Closer.
Olivier Royan, de Paris Match, cette information, il fallait la sortir, vous l'auriez sortie également ?
Non, je pense que chaque magazine, chaque journal ou chaque média a un contrat de lecture avec les gens qui le lisent. Nous, on a brisé, entre guillemets, le tabou de l'homosexualité avec une couverture qui était autorisée. C'était Amélie Mauresmo avec sa fiancée de l'époque. Alors, c'est une couverture qu'il fallait faire, qui était difficile parce que, on savait qu'on allait un petit peu choquer. On l'a faite avec son accord. Il y a eu une autre, dans l'histoire de Match, il y a eu une deuxième couverture qui, celle-là, n'était pas autorisée. C'était Muriel Robin avec sa fiancée, avec qui elle est toujours, d'ailleurs. Et là, on nous a accusé d'avoir publié une photo volée. Je pense que nous, on n'a jamais embrassé le parti de la transparence, mais plutôt celui de la cohérence. Savoir s'il y a une cohérence entre le discours public et la vie privée. Mais là encore, je voudrais rappeler que chaque journal, chaque magazine a son propre contrat avec ses lecteurs et sait jusqu'à où il peut aller.
Raphaël Baquet, l'information, ça fait partie de notre mission d'informer.
Ce qui est intéressant, à vrai dire, c'est les réactions qu'il y a eu à cette photo de Closer. Elle pose deux problèmes. Le problème du principe de la photo volée, qui est donc le viol direct de la vie privée. Et puis le deuxième sujet, est-ce que ça a un intérêt politique ? Alors, à la première question, évidemment, je serais tenté de répondre que le viol de la vie privée et ses photos volées, c'est quelque chose de très violent, de très brutal. Auquel on doit s'arrêter à mes yeux. Est-ce que ça a un intérêt politique ? Alors en revanche, oui, je réponds oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au sein du Front National, mais ce n'est pas le seul parti, il y a un débat sur l'homosexualité de l'entourage de Marine Le Pen. Elle a été contestée là-dessus lorsqu'elle a pris le pouvoir, lorsqu'elle a pris la présidence du Front National en 2011, et elle continue d'être contestée là-dessus par ses opposants en interne et par la presse d'extrême droite, et notamment Minute. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus, comme il y en avait un d'ailleurs au Parti communiste. Rappelez-vous, enfin, si vous regardez les archives, on faisait des papiers sur la façon dont Georges Marchais vilipendait les homosexuels ou dont certains partis d'extrême-gauche vilipendaient les homosexuels en leur sein. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui existe depuis longtemps et qui, au Front National, est tout à fait d'actualité et qui a ressurgi évidemment à l'occasion du mariage pour tous.
Et on a dit aussi que c'était une des façons pour Marine Le Pen d'avoir fait preuve de prudence dans le débat sur le mariage pour tous, où elle s'est exposée beaucoup moins que l'UMP, beaucoup moins que la droite de l'UMP.
C'est sûr qu'à l'intérieur du Front National, les opposants de Marine Le Pen accusent Florian Philippot, Steve Briouat et d'autres conseillers de Marine Le Pen d'avoir pesé en raison de leur orientation sexuelle, sur le fait qu'elles ne participent pas aux manifestations contre le mariage gay. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui existe à l'intérieur du Front National et qui existe à l'extérieur.
On va en reparler. Oui, Laurence Piau.
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a titré le mariage. Enfin oui, on a titré l'amour pour tous. Évidemment, on se raccrochait aussi à ce débat, même si encore une fois c'est pas le nôtre. Mais on a aussi Olivier Royan le rappelait, le fait que la vie personnelle d'un homme politique peut aussi influer, c'est tout le débat, peut aussi influer sur ses prises de position et sur le fait qu'effectivement, Florian Philippot, il est dit, selon certains, qu'il a influé sur les positions de Marine Le Pen, mais il y a un arrêt aussi de la Cour d'appel de décembre 2013 qui est très important, qui considère que le fait qu'a trait à Steve Briouat, qui est le maire d'Hénin-Beaumont, et qui considère que la révélation sur la vie privée de ce dirigeant frontiste qui est lui-même homosexuel s'efface devant l'intérêt public et devant l'éclairage de l'action publique et de l'action du FN. Et c'est quand même c'est un arrêt très très important.
Fabrice Lorvo va nous en parler dans un instant. On écoute Florian Philippot.
Quelle est cette société où on peut être traqué, parce que ça a été le cas, pisté pendant plusieurs jours, pris en photo à votre insu, les photos livrées comme ça au grand public, sans votre accord bien évidemment. C'est une dérive qui me semble grave, très grave, une sorte de fuite en avant vers l'américanisation, hein, à laquelle on avait échappé en France et qu'on a tant condamné, je crois, avec justesse, parce que c'est une régression terrible. Et je vois qu'on est en plein dedans, pour des raisons de fric. Parce qu'évidemment, ces magazines de la presse torchon, la presse de caniveau, font ça pour des raisons bassement matérielles de fric. Et je trouve ça assez triste. Moi, j'ai toujours eu un principe très clair, et c'est pour ça que j'avais condamné aussi très clairement les photos de Julie Gayet et François Hollande. J'ai toujours prôné la séparation stricte entre vie privée, tous les éléments de la vie privée, et engagement politique. Et je pense que c'est une ligne de conduite à laquelle il faut se tenir, parce que sinon nous tombons dans des dérives extrêmement graves et il n'y a plus de limite. On voit bien, ce qu'on appelle transparence devient en réalité tyrannie.
Voilà, Florian Philippot interviewé lundi dernier sur France Inter. Florian Philippot qui réclame à Closer 50 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la vie privée. Laurence Piau, vous voulez répondre après cet extrait ?
Oui, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le principe des photos volées, des photos non autorisées. Donc effectivement, on a complètement le droit d'être contre ce principe de peine d'accord. Après, il y a le fait de qualifier presse torchon, presse de caniveau. Voilà, c'est quand même ça montre quand même un mépris profond des lecteurs de cette presse-là, qui sont quand même très importants. Closer, c'est 3 millions de lecteurs, c'est 9 millions en termes d'audience. Donc un vrai mépris. Et puis après, sur la frontière entre la vie privée et la vie publique d'un personnage politique de premier plan, ça, je pense que le débat est très très large et dépasse largement Closer. C'est tout ce qui a été plaidé autour de plein d'histoires de ce type sur l'intérêt général. Est-ce que la vie privée d'un homme politique de ce plan-là doit être dévoilée au motif qu'elle est susceptible d'influer sur ses prises de position politique, notamment sur le mariage pour tous. C'est tout le débat de cette histoire et du principe
on,
de la...
On va y revenir, vous parliez de 3 millions de lecteurs, Closer.
Oui.
Combien de ventes après le...
C'est pas ça aussi, quand on parle de machines à faire du fric et de... je pense que c'est la chose la plus...
C'est l'une des accusations
bien sûr, c'est la chose la plus démagogique qui se raconte, parce que déjà sur cette histoire qui est, je le rappelle, un appel de une, hein, et pas la une principale, c'est Charlène de Monaco, hein, la une principale. Sur cette histoire, on va pas gagner beaucoup de lecteurs. C'est quelque chose qui est essentiellement parisien, qui fait beaucoup bouger les milieux journalistiques et politiques et bien pensants et bien rangés. C'est pas sur cette histoire qu'on va faire des ventes et de grosses ventes.
Alors le Front National et l'homosexualité, le parti, le FN, qui veut abroger le mariage pour tous. On écoute un extrait.
Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Pédé ? Ah, ça m'a rajeuni.
Alors, ce que nous venons d'entendre se déroule le 30 mai 1997. Jean-Marie Le Pen est à Mantes-la-Jolie pour soutenir sa fille, Marie-Caroline, candidate aux législatives dans les Yvelines. Et la visite de Jean-Marie Le Pen s'est extrêmement mal passée. C'est intéressant tout de même de montrer l'apparente contradiction du Front National, le débat en sens un, les positions défendues et l'homosexualité, Olivier Royan.
Je pense que évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est quand on entend les hommes politiques, parce que d'abord
il y a des discours très violents contre
l'homosexualité. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser que l'information qui va arriver vers le public ne sera simplement que le fait de leur communication. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de vous expliquer quelles sont leurs idées, ils ont le droit de faire des congrès, et que qu'il est interdit aux journalistes d'enquêter, de regarder est-ce que leur personnalité est en rapport avec leurs idées, est-ce qu'il y a un lien quelconque entre une cohérence quelconque entre leur discours public et leur prise de position, même privée. Donc c'est sûr que dans ce domaine-là, il y a une contradiction fondamentale au Front National.
Alors, Raphaël Baquet, vous consacrez une enquête à ce débat au sein du FN sur l'homosexualité, un article publié, on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez abordé, un article publié dans Le Monde daté du 18 décembre. Avec également un titre qui claque, le FN pour tous. Est-ce qu'en parlant de l'homosexualité au Front National et du débat en interne, on remplit, nous, journalistes, notre devoir d'information ?
Ah oui, là je pense que c'est évident.
Et en révélant...
Mais moi justement, alors c'est là toute la différence, c'est-à-dire que je fais cet article en racontant justement les contestations internes très vives qu'il y a au Front National, les contradictions idéologiques qu'il y a au Front National, puisque c'est un parti qui à la fois soutient avec ferveur Vladimir Poutine et son régime homophobe, ouvertement homophobe, et qui en même temps accueille en son sein beaucoup d'homosexuels, et même pour la première fois, quelqu'un qui a été un fondateur d'une association communautaire, Galib.
Donc, voilà, Sébastien Chenu.
Sébastien Chenu. Donc, évidemment que c'est un débat et c'est intéressant. Il se trouve que dans mon article, justement, je n'ai pas outé de gens, si vous voulez. Je pense qu'on peut raconter cette histoire. En tout cas, moi, je peux le faire en presse écrite. Mais j'imagine que pour Laurence Piau, par exemple, dont le fondement même de Closer, c'est de publier des photos. Alors, évidemment, ça change les choses. Moi, je peux faire tout à fait cette enquête sans outer les gens, si vous voulez. Sans donner de nom de gens qui ne seraient pas revendiqués homosexuels. Et à vrai dire, l'information politique y est et elle est très importante. Et je pense qu'effectivement, si on passe à côté, si on n'en parle pas, on passe à côté d'un problème très vif au sein du Front National. Je vois que Marion Maréchal Le Pen a à nouveau publié une tribune il y a quelques jours pour dire justement qu'elle n'acceptait pas l'arrivée de communautariste homosexuel. Elle vise directement l'arrivée de Sébastien Chenu.
Oui, parce que vous racontez
en contradiction avec sa tante.
Combien Marine Le Pen défend ses cadres accusés de communautarisme.
Bien sûr, c'est un vrai
sujet.
C'est
assez violent,
si vous voulez,
le débat, visiblement.
Et je raconte le bureau politique qui s'est passé. Ça s'est passé ouvertement. C'est-à-dire que vraiment des membres du bureau politique ont accusé Marine Le Pen de faire rentrer un lobby gay. Donc c'est un débat, si vous voulez, qui est interne au Front National, mais qui est dit. Vous voyez, c'est pas secret. Donc je trouve qu'il est du devoir, évidemment, de la presse de le raconter, d'autant plus qu'effectivement, il y a une contradiction. D'abord, une stratégie de Marine Le Pen d'élargir son électorat et donc de faire venir à elle des groupes d'électeurs, si vous voulez, qui jusqu'ici paraissaient les adversaires du Front National. Et les homosexuels en étaient. Vous avez rappelé ce que disait Jean-Marie Le Pen et qu'il disait, il y a encore moins lointaine que ce que vous avez diffusé. En 2007, il faisait sa campagne présidentielle en moquant les chapons du Marais.
Donc vous le racontez dans cet article.
Donc, c'est encore un débat très vif, mais c'est aussi un changement de stratégie de la présidente du Front National qu'elle a amorcé et qui ne va pas sans difficulté. Et donc, c'est normal de le raconter.
Olivier Royan.
Bon, ça, c'est pour l'analyse politique, qui est intéressante. J'ai beaucoup d'admiration pour Raphaël, ma consoeur. Ce qui est assez intéressant de voir dans cette affaire de Closer et de Philippot, c'est de voir comment c'est un mécanique qui se met en place. C'est-à-dire, on la connaît dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Les tabloïds passent devant. Et derrière, la presse, les quotidiens, les grandes télévisions vont grâce aux photos passées dans les tabloïds, grâce à ceux qui ont accepté d'être la mauvaise conscience de leur temps, on va pouvoir dégager, pouvoir développer un grand débat national.
Est-ce que votre papier
serait passé le 18 s'il n'y avait pas eu Closer une semaine avant?
Bah, à vrai dire, il était en préparation avant.
Bon, d'accord.
C'est plus l'arrivée de Sébastien Chenu, à vrai dire, qui a déclenché le souci, l'envie d'enquêter. Mais on avait déjà évoqué ce sujet au moment du mariage pour tous. Et justement, de la surprise, si vous voulez, qu'il y avait à voir que Marine Le Pen désertait au contraire les manifestations, alors que Marion Maréchal Le Pen, par exemple, et d'autres cadres du Front National y allaient. Donc évidemment, on avait déjà abordé ce sujet.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. Alors, a-t-on le droit ou pas de publier une information qui touche à la vie privée d'une personnalité? Et avant de le faire, quels sont les paramètres à prendre en compte, Fabrice?
Eh bien, avant de publier une information, le journaliste doit se demander s'il a le droit de le faire. Et il va y avoir une confrontation entre deux libertés fondamentales. La première, c'est le droit au respect de la vie privée, qui est reconnu par le droit français comme par le droit européen. Et la seconde, c'est le droit à l'information du public. Et la difficulté, c'est que ces deux libertés ont la même valeur et il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Donc il va falloir, au cas par cas, essayer de déterminer si le droit à l'information va pouvoir justifier l'atteinte à la vie privée. Alors cette confrontation, on peut dire qu'elle n'est pas universelle. Elle n'existe qu'en France et qu'en droit européen. Par exemple, aux États-Unis, vous ne pouvez pas, rien ne résiste au droit à l'information et le respect de la vie privée ne justifie pas, comme on a pu le voir dans l'affaire Clinton avec la stagiaire, le respect de la vie privée. Cette confrontation, elle est très ancienne. Dès la Révolution française, dans la Constitution de 1791, il était prévu que les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée seront punies. Et c'est effectivement la contrepartie qui a été donnée contre le droit d'informer. Et ça a très bien été repris dans les débats parlementaires en 1819 et la formule est fameuse, elle est de Royer-Collard, qui disait que la vie privée doit être murée. Eh bien, ce mur de la vie privée, il existe donc depuis le 19e siècle et il a toujours été présent, même s'il est évolutif. Je voudrais rappeler que donc, la frontière entre la vie privée d'un côté et la liberté d'informer, elle a beaucoup varié. Donc à ce jour, pour résumer, on doit respecter la vie privée, c'est notamment l'article 9 du Code civil. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition de la vie privée. Et donc c'est la jurisprudence qui va au fur et à mesure la définir. Bon, ça, grosso modo, ça inclut la vie familiale, sentimentale et sexuelle, la santé, les loisirs, le patrimoine et l'image de la personne. Et les frontières vont s'apprécier différemment aussi en fonction de l'individu. Si on est en présence d'un illustre inconnu, eh bien, la protection sera beaucoup plus importante qu'une personne qui fait appel à la confiance du public, un homme politique ou une personne médiatique, ou une personne qui recherche les faveurs du public. Voilà. Et aujourd'hui, la jurisprudence dit clairement que le droit à l'information peut empiéter sur la vie privée lorsque, notamment, on aborde un sujet d'intérêt général. Alors, le sujet d'intérêt général n'est pas non plus défini, mais c'est généralement un débat d'actualité ou ce qui est de nature à faire progresser les affaires du genre humain.
Fabrice Lorvaux, on vous retrouve dans un petit moment. Thibouenton, on va pas s'aérer pour le multimédia. Vous allez nous parler aussi d'une information qui a fait beaucoup de bruit et vous allez nous parler du hack de la semaine qui concerne Sony et le film L'Interview qui tue.
Oui, le hack ou mieux le piratage, car un hacker n'est pas nécessairement un pirate. Comprendre donc une intrusion informatique dans le réseau international de Sony Pictures Entertainment, la branche hollywoodienne du japonais Sony et qui date donc officiellement de la fin du mois de novembre, mais dont les conséquences les plus sévères de ce vol de données donc ont fait la une cette semaine, après que la firme a décidé d'annuler la diffusion dans les salles de cinéma du monde entier de The Interview, une comédie dans laquelle des journalistes ont pour but de faire exploser la tête de Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, avec force hémoglobine.
The CIA is asking us to be a couple James Bonds.
We have a dictator to kill.
Let's go.
Hello, North
Ironie de l'histoire, alors que les Guardians of Peace, le groupe de hackers qui a revendiqué l'attaque contre Sony, des Coréens du Nord ou leurs supporters, on ne sait pas, Pyongyang dément, mais pour Washington, c'est bien le suspect numéro un. Alors même que ce groupe est en possession de quantités de données confidentielles propriété de Sony, donc 37 937 159, très exactement, parmi lesquels le passeport d'Angelina Jolie et le contrat de nudité de Sharon Stone, les pseudos utilisés par Tom Hanks et, ou Natalie Portman pour réserver en toute discrétion leur hôtel, mais aussi des budgets prévisionnels, des emails, des adresses, des numéros de sécu, des employés, etc. Ironie de l'histoire, disais-je, alors que dans cette histoire, la véritable menace est celle d'une diffusion de données personnelles, c'est à une censure que l'on assiste. Devant les menaces d'attentats, les salles américaines ont annulé la sortie du film, suivie ensuite par Sony, qui a annoncé dans la foulée renoncer à sa distribution, déclenchant l'ire de nombreuses personnalités furieuses de les voir ainsi plier devant ces mystérieux gardiens de la paix. Mais qui sont-ils ? Des gens, manifestement, très au fait de l'histoire américaine, puisque, comme le soulignait George Clooney lui-même, « gardien de la paix » est une expression prononcée par Nixon quand il a visité la Chine et qu'on lui a demandé pourquoi il voulait aider la Corée du Sud. Il a répondu « parce que nous sommes les gardiens de la paix ». Impossible de savoir d'où ces gardiens agissent. On parle pour l'instant d'un hôtel en Thaïlande et d'un serveur en Bolivie, ni pour le compte de qui. Mais l'attaque aurait réclamé, paraît-il, beaucoup de moyens, accréditant l'hypothèse d'un parrainage étatique. Mais en même temps, bon, il y avait dans la base Sony quantité de fichiers ayant pour titre mot de passe au pluriel, ce qui équivaut, si vous voulez une analogie, à laisser les clés de sa voiture sur le contact. Mais rien ne dit que ce piratage visait spécifiquement ce film sur la Corée du Nord. Rien ne dit que ce groupe soit homogène et que tous en son sein aient les mêmes buts. Bref, on comprend que Barack Obama, tout en parlant d'atteinte à la sécurité nationale, n'ait eu qu'un conseil pour ses concitoyens, aller au cinéma.
Thibaut Henton, merci. La vie privée des personnalités, les journalistes doivent-ils tout révéler ? Avec nos invités Laurence Piau, Raphaël Baquet, Olivier Royan, à commenter, à podcaster sur franceculture.fr. It's a dark road on the other side. La chanteuse belge Sheila Sou, on vient d'entendre Alone, extrait de son prochain album, sorti prévu en mars 2015.
Cette information qui va beaucoup faire parler dans les jours qui viennent, elle fait suite au reportage d'un magazine People qui évoque une relation entre François Hollande et la comédienne Julie Gayet. Réaction quasi immédiate du président. Dans un communiqué personnel, François Hollande déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée auxquelles il a droit, dit-il, comme tout citoyen. François Hollande ajoute qu'il examine les suites, y compris judiciaires, à apporter à cette parution.
Valérie Trierweiler est-elle toujours, aujourd'hui, première dame de France ?
Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun.
Voilà, extrait du journal de 13h de TF1 le 10 janvier 2014. Et ensuite, vous avez entendu un extrait de la conférence de presse à l'Élysée de François Hollande qui a eu lieu 4 jours après, le 14 janvier. Encore un scoop, Closer, mais cette histoire part de très loin, en fait. Elle est racontée dans le livre « Folle rumeur » paru chez Stock par Mathieu Aron et Franck Cognard. Une rumeur qui débute en 2013, reliée par plusieurs blogs, et en particulier Dreuze.info. Et une opération de déminage est entreprise par François Hollande, qui s'en prend aux rumeurs. Valérie Trier-Weller également s'en prend aux rumeurs. Et Julie Gayet, qui porte plainte contre X. Ça marche. La presse est très prudente. Tout le monde a encore en tête la rumeur, car la Bruni Benjamin Biolay, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, on croit que c'est fini. Et puis, Laurence Pio arrive Closer, janvier 2014, les photos de François Hollande avec un casque et en scooter. Pourquoi décidez-vous finalement d'enquêter ? Vous avez eu l'impression qu'on s'était moqué des journalistes ?
On a enquêté sur tout le monde, comme tout le monde, hein, sur cette affaire début 2013, effectivement, quand la rumeur a commencé à courir. Et puis,
L'opération d'éliminage marche bien.
Il y a le communiqué de Julie Gayet à l'AFP qui est assez désarçonnant et qui ment quand même, qui dit cette histoire n'existe pas et je poursuivrai quiconque propagera cette rumeur. Donc effectivement, nous, on arrête de travailler dessus. Un peu comme tout le monde, j'imagine. Et puis, il y a cette séquence assez surréaliste sur le plateau du Grand Journal de Canal+, où devant Julie Gayet, Stéphane Guillon en rit. Il dit devant elle, sans qu'elle proteste, que le président est venu sur le tournage de son dernier film. Donc, on décide, partant de là, de retravailler dessus en se disant on ne va pas non plus passer un mois sur cette histoire. Et assez rapidement, le photographe qui travaille dessus, qui est Sébastien Valliella, se rend compte qu'au Flore, une voiture de la présidence vient chercher Julie Gayet et la dépose rue du Cirque. Donc les photos de la rue du Cirque arrivent effectivement assez rapidement. Ils sont sortis très rapidement après qu'elles étaient prises.
Alors Raphaël Baquet, là aussi vous rebondissez dans Le Monde avec Ariane Chemin pour nous raconter la panique dans un article intitulé « Nuit blanche à l'Élysée ». Ce que vous nous décrivez, c'est vraiment l'affolement, ils sont pris de court.
Oui, c'est
ils n'ont pas reçu, pardon Laurence Pio, vous ne l'avez pas envoyé Closer à l'Élysée?
Non, en fait, il y a eu des fuites, donc on a démenti, et on sortait le... Moi, je pensais que la veille, il était très simple d'avoir le journal, il suffisait d'aller dans un bureau de poste et de prendre un journal destiné aux abonnés, donc je pensais que 24 heures avant, le scoop serait éventé. Très, très bizarrement, ça n'a pas été le cas, et si l'on en croit effectivement l'article passionnant de Raphaël Baquet, ça, je crois que le magazine est arrivé très tard à l'Élysée.
Intéressant, c'est un peu l'époque qui veut ça d'une certaine façon. Hein. Le pouvoir politique aujourd'hui est heurté de plein fouet par effectivement la presse people, les révélations aussi des réseaux sociaux, les campagnes, l'espèce d'énorme maelstrom incontrôlable aujourd'hui, à la différence d'hier ou d'il y a quelques années, en tout cas d'information. Et c'est vrai que là, cette photo, ces photos ont entraîné une panique à l'Élysée qui était intéressante de raconter, puisque pour la première fois, on voyait non seulement les conseillers habituels du président, mais aussi son avocat, Jean-Pierre Mignard, qui est aussi son ami, Jean-Pierre Jouyet, qui venait tout juste d'arriver, et son épouse Brigitte Tettinger, au fond, œuvraient pour à la fois organiser la contre-offensive du président de la République et puis aussi exfiltrer, il faut bien le dire, Valérie Trier-Weller et l'emmener à l'hôpital. C'est quand même la première fois qu'on voyait ça. Donc c'est vrai que la presse people, que tout le monde regarde avec mépris, a aujourd'hui un impact sur le pouvoir politique et ça, pour le coup, ça mérite d'être raconté.
Olivier Royan, ces photos, vous auriez aimé les publier, j'imagine ?
Non, parce que moi, il me faudrait le couple. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui peut aller pour Closer ou pour Le Monde ne va pas forcément pour Match. C'est vrai que la scénarisation qui a été faite dans Closer de l'affaire des allers-retours de Gayet et du président de la République rue du Cirque est parfaite. Hein. C'est un peu ce à quoi les Anglais nous avaient habitués. Donc, il n'y a absolument rien à dire de ce côté-là. Bon, nous, évidemment, l'instant où Match pourrait intervenir, serait si Julie Gayet et François Hollande étaient quelque part ensemble, main dans la main, ou avec un geste qui attesterait de la relation. Parce que c'est extraordinaire, c'est que la presse du monde entier est venue en France pour expliquer, parler d'un couple qui n'existe apparemment pas. On les a vus dans Voici récemment attablés à l'Élysée, mais je ne sais pas quelle est cette signification. Donc c'est incroyable. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui touche au président de la République n'a rien à voir avec les hommes politiques. François Hollande n'est pas Florian Philippot. Il est évident que de par les pouvoirs qui lui sont conférés, la République présidentielle dans laquelle nous sommes, sa vie n'est pas du tout la même que celle d'un homme politique normal. Ça veut dire qu'on la regarde avec particulièrement d'attention. En ce qui concerne Match, on se voyait mal entrer dans une opération commando de planque du président de la République autour de l'Élysée. Parce que c'est quand même ça la question, c'est quand même comment arriver à obtenir ces photos. Moi, je pense que le problème du président aujourd'hui par rapport à l'opinion, par rapport à cette question de la vie privée, c'est le mensonge. À l'instant où il y a mensonge, le président perd de la cohérence. Et ça veut dire quoi? Moi, j'étais avec Gary Hart le jour où sa campagne a explosé en vol en 88. J'étais avec Bill Clinton le jour où Jennifer Flowers, dans le Star, la version closer des États-Unis, où elle a révélé sa relation avec le gouverneur de l'Arkansas. Bon, c'était le problème du mensonge. La question de François Hollande dans cette histoire, c'est son incapacité d'abord à révéler aux Français d'abord à prendre les devants, parce que je pense que vis-à-vis de la presse aujourd'hui, pour un homme politique, il faut prendre les devants et savoir que ça ne marchera pas. On est dans une période de transparence, il faut pouvoir dire les choses, et l'idée qu'il peut aller voir sur un scooter, avec un casque sur la tête, sa maîtresse à deux blocs de l'Élysée, l'idée que les Français ne le sauront pas, c'est assez illusoire. Et il y a quand même chez les hommes politiques une certaine arrogance à vous dire, vous savez, je suis plus fort que vous, vous ne le saurez pas. C'est ce que Gary Hart a fait, il a défié le Washington Post, c'est ce que Bill Clinton a fait avec ses dizaines de petits amis qu'il a vus pendant qu'il était gouverneur, vous ne le saurez pas, je suis plus fort que vous, j'ai le pouvoir. Et je pense que c'est une erreur, c'est une erreur de penser ça dans la façon dont fonctionne aujourd'hui la presse et la société qui est extrêmement exigeante et qui a assez aberrant dans son mode de fonctionnement.
Fabrice Lorvaux, on vous retrouve spécialiste du droit des médias. Retour sur Florian Philippot. Est-ce que les révélations sur son homosexualité ont fait tomber le mur dont vous parliez tout à l'heure, le mur du respect de la vie privée censé protéger la vie amoureuse des hommes politiques?
Alors le mur tient toujours, mais on se demande si aujourd'hui ce ne serait pas un muret. Ouais. Voilà, donc en principe, donc une personnalité politique a droit au respect de l'intimité de sa vie amoureuse, sauf si d'abord il a mis en scène médiatiquement sa vie de couple et aussi si cette vie amoureuse concerne une question d'intérêt général. Alors comme on l'a vu, tout ça c'est au cas par cas, donc on va examiner quelques cas. Pour la protection de la vie privée, lorsque la personne met en scène son couple, on a le cas du divorce Sarkozy, où effectivement le président avait poursuivi la presse qui avait parlé de son divorce, et le tribunal avait révélé qu'il n'était pas illégitime d'informer le public, puisque quelques années auparavant, quand ce couple fonctionnait bien, Nicolas Sarkozy l'avait mis en avant et avait demandé à la presse d'en parler. Mais cependant, lorsque effectivement cette justification est avéré, cela n'autorise pas tout. Le tribunal, d'un autre côté, avait considéré qu'on ne peut pas publier des insinuations concernant un possible adultère ou des informations concernant la garde de l'enfant. Ça, ça relève de la vie privée. Pour ce qui est de la protection de la vie privée qui est réduite pour des questions d'intérêt général, on peut citer en 2005 une décision qui concernait une journaliste vedette de télévision et un homme politique qui était ministre à l'époque. Et là, il a été considéré que cette information s'inscrivait dans un débat d'intérêt général qui était le possible impact que peuvent avoir sur la formation de l'opinion publique des liens entre une personnalité politique et une personnalité médiatique. Là, on avait un personnage de télévision d'importance, puisqu'elle présentait le 20h. Et donc, la question légitime, quand vous présentez le 20h, est-ce que vous pouvez, de manière impartiale, présenter l'action du gouvernement lorsque votre mari y est présent? On va parler d'un dernier arrêt qui est important, celui de la Cour d'appel de Paris, donc de décembre 2013, auquel vous faisiez tout à l'heure allusion. Donc on rappelle qu'il concernait un livre qui révélait l'homosexualité de deux membres du Front National et leur vie commune au même domicile. Alors dans un premier temps, la Cour d'appel à considérer qu'en traitant de l'orientation sexuelle et de la vie du couple de ces deux hommes, fait que ceux-ci n'avaient pas divulgué publiquement, eh bien, l'ouvrage avait gravement porté atteinte à des aspects les plus intimes de leur vie privée. Cependant, elle a fait un cas particulier pour le secrétaire général du Front National, en considérant effectivement que, comme c'était une personnalité politique de premier plan, eh bien, l'évocation de son homosexualité pouvait s'inscrire dans un débat d'intérêt général, qui était sur la question de savoir quelles étaient les relations que le Front National avait à l'égard des homosexuels. Alors, il faut d'abord savoir que cette décision, elle est devant la Cour de cassation. Donc, il faut attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Mais on peut la considérer critiquable. Certains auteurs de doctrine l'ont trouvée critiquable. Pour ma part, je la trouve critiquable parce que je considère qu'on inverse le mécanisme. D'habitude, on part de la vie privée et on l'extrait dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Tandis que là, on a illustré un débat d'intérêt général par un cas privé d'une personne qui ne voulait pas révéler son homosexualité.
Merci Fabrice Lorvaux. Thibaut Anton, vous nous parlez de la photo de la semaine. C'était une vieille photo, en fait, elle a un an.
Oui, c'est la photo d'une poignée de main entre Barack Obama et Raúl Castro il y a quasiment un an, jour pour jour. C'était le 10 décembre 2013, lors de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Une poignée de main capturée de loin, en mauvaise qualité. Rien à voir avec les poses habituelles des chefs d'État se serrant la pomme pendant de longues secondes pour la photo. Poignée de main furtive, donc préparée ou pas, on l'ignore, mais c'est probable, qui a servi d'illustration à tout le monde mercredi quand Cuba et les États-Unis ont annoncé qu'ils entamaient la normalisation de leurs relations diplomatiques après 55 ans de rupture. Alors, si l'embargo est encore loin d'être levé dans l'immédiat, que peut-on attendre de cette normalisation? Eh bien, à en croire le gouvernement cubain qui s'y est engagé, rien de moins que l'expansion de l'accès à Internet. Pour l'heure, vous le savez peut-être, Cuba n'est relié à Internet que par un câble, un seul, qui relie l'île au Venezuela. L'accès au réseau y est très restreint et le prix de la connexion très cher. L'expansion de l'accès à Internet, c'est la promesse pour Cuba d'être relié aux grandes plateformes du web, lesquelles sont pour la plupart américaine, et de retrouver ainsi, ironie de l'histoire, le niveau d'échange qui était celui avant l'embargo de 1962. À l'époque, deux tiers des échanges de l'île se faisaient avec les États-Unis.
Thibaut Henton, merci. L'actualité de la semaine à l'étranger, nous allons à Jérusalem retrouver notre correspondant permanent, Sébastien Logénie. Shabbat shalom, salam alaikum Sébastien.
Alaykoum salam, Shabbat shalom.
Alors en Israël, la presse garde toujours un œil sur le Front National en France, mais cette semaine, ce ne sont pas les révélations sur Florian Philippot qui ont fait la une chez vous, Sébastien.
Non, la une cette semaine, en effet, en Israël et en Palestine, c'est la pression diplomatique internationale qui ne cesse d'augmenter sur l'État hébreu et sur le gouvernement de Netanyahou, avec en point d'orgue la journée terrible de mercredi, puisqu'en une seule journée, Israël a dû encaisser trois très mauvaises nouvelles. La justice européenne a ordonné le retrait du Hamas de la liste des organisations terroristes, une décision technique sans conséquence, mais très symbolique. Le Parlement européen a appelé à la reconnaissance de l'État de Palestine et bouquet final. Les Palestiniens sont enfin passés à l'acte à l'ONU. Ils ont déposé une résolution au Conseil de sécurité appelant Israël à se retirer de Cisjordanie d'ici 3 ans. N'en jetez plus. La presse proche de Netanyahou et notamment le journal gratuit Israël Hayom est monté très haut dans le registre de la colère. Son éditorialiste n'hésite pas à parler d'une nouvelle nuit de cristal en Europe. Pas avec la violence, dit-il, mais avec des mots. Le mari, au contraire, voit dans cette avalanche diplomatique la responsabilité directe du Premier ministre qui, dit-il, n'a plus un gramme de crédibilité dans le monde. La preuve, poursuit le Yediot Aharonot, c'est que pour la première fois en 47 ans, eh bien les États-Unis s'interrogent pour savoir s'ils vont ou non mettre leur veto à la résolution palestinienne à l'ONU. C'est la fin, poursuit le journal, du veto automatique américain, peut-être la fin d'une époque. Attention toutefois, conclut le Yediot, à ne pas faire le jeu de Bibi lors des prochaines élections. Si les Européens attaquent trop fort Israël et si les Américains ne mettent pas leur veto à l'ONU, eh bien Bibi pourra dire « Regardez, le monde entier est contre moi et contre nous. Je suis le seul à pouvoir vous protéger. Votez pour moi. » Un registre dans lequel Bibi est très à l'aise, Frédéric.
Et c'est l'autre titre de la semaine, Sébastien, les élections générales qui se rapprochent.
Oui, on ne peut pas dire que ça fasse vraiment la une. Les électeurs israéliens restent assez indifférents pour l'instant, mais les journalistes se passionnent pour cette élection qui pourrait bien voir la fin du règne de Netanyahou. Et ce que rapporte la presse montre une fois de plus la grande plasticité de la politique israélienne. Deux exemples, l'ultranationaliste Lieberman, considéré comme infréquentable encore il y a quelques années par Washington, eh bien envisage une alliance avec les travaillistes, autrement dit avec le centre-gauche. Et le nationaliste religieux Naftali Bennett, lui, a recruté sur ses listes une arabe palestinienne qui ne veut pas d'un État palestinien. Bref, c'est le grand bazar, écrit un commentateur du Maariv. L'idéologie est devenue très élastique en Israël, dit-il. Il n'y a plus de droite, plus de gauche, tout le monde est au centre. Ces politiques-là, fini le Maariv, ne méritent pas notre vote.
Voilà, le bazar, le balagan. Et on finit en beauté, Sébastien, et Noël approche à Bethléem et à Nazareth.
Oui, le grand sapin de Noël sur la place de la Mangeoire à Bethléem brille de mille feux depuis quelques jours. Mais les commerçants palestiniens sont inquiets car ils craignent que les violences récentes à Jérusalem n'affectent le tourisme. Après la guerre de Gaza, en effet, le nombre de touristes avait baissé de 30%. Pour le moment, toutefois, le Haaretz nous dit que peu de réservations ont été annulées. Le Haaretz qui s'est aussi rendu dans la ville où a vécu Jésus, selon la tradition biblique, à Nazareth. C'est la plus grande ville arabe chrétienne d'Israël qui, depuis 4 ans seulement, a aussi droit à son grand sapin de Noël. L'humeur est donc à l'optimisme. On attend, paraît-il, 100 000 personnes dans les rues, principalement des Juifs qui viennent acheter des bonnets rouges du Père Noël. La guerre de Gaza semble déjà oubliée.
Toda Rabba Choukran, Sébastien Legénie, en direct de Jérusalem. Le clin d'œil, libre inspiration de Yacine Bouzard.
Laurence Pay débute sa carrière de journaliste au Figaro Magazine. En 1995, elle débarque à l'hebdomadaire Voici. Laurence Pay est heureuse. Elle vit avec Barack, l'Américain. Il est beau, elle est amoureuse. L'été 98, il fait beau à Paris. La France est championne du monde, le ciel est bleu. Laurence se balade sur le pont des Arts. Elle tombe nez à nez avec Raoul, le Cubain. Il est beau, elle est sous le charme. Les ennuis commencent.
Le Pentagone et la CIA estiment qu'il y a danger pour les intérêts américains.
Barack, ivre de jalousie, décide de punir le Cubain.
Il donne alors le feu vert à une opération préparée sous Eisenhower. Un débarquement dans la baie des Cochons.
Raoul, qui n'est pas homme à se laisser faire, riposte.
Le résultat est une catastrophe. Kennedy et son équipe en endossent toute la responsabilité. Le risque d'un affrontement nucléaire est majeur.
Fatiguée de voir les deux hommes se battre pour elle, Laurence Pay se tourne vers Chi, le prince de l'Empire du Milieu, le Chinois bondissant. Barack et Raoul, voyant s'éloigner Laurence Pay, décident de faire la paix.
Moteur. Todos somos americanos.
Esta decisión del presidente Obama merece el respeto.
L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement.
Laurence, quant à elle, est toujours sur le coup pour Closer.
Si soit-il.
Voilà les relations américano-cubaines et Closer visitées très librement par Yacine Bouzard. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Les journalistes doivent-ils tout révéler sur la vie privée des personnalités? Merci à nos invités. Laurence Pio, directrice de la rédaction de Closer. Votre livre Scoop Story vient d'être publié aux éditions First Document. Et dans Closer, cette semaine, une interview de Jean-Luc Mélenchon.
Oui,
Laurence Pio.
Absolument.
Voilà. Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match. Cette semaine dans Paris Match, Charlène de Monaco à la une et une enquête de Patrick Forestier sur les coulisses de la libération de Serge Lazarevitch.
Et de Marc Duguin aussi qui est parti sur ce sujet oublié, indispensable en 2014, c'est-à-dire où est passé le vol MH370 de la Malaisienne. Enquêter, c'est le moment parce que le mystère est entier et l'omerta énorme.
Raphaël Baquet, grand reporter au Monde et l'une des enquêtrices vedettes du journal. Je signale votre livre avec Ariane Chemin, paru l'an dernier. Les Strauss-Kahn chez Point Édition. Nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés. Merci à Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henton pour les images et le web. Merci à Sébastien Legénie de Jérusalem, dans les coulisses de l'émission Les Indispensables, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, pour la préparation, la réalisation de l'émission et du site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Pierrick Monsigny, le clin d'œil de la semaine que l'on vient d'entendre de Yacine Bouzard, dans un instant, le journal de Sarah Petitbon, suivi de répliques, reconnaître la Palestine, Alain Finkielkraut reçoit Pierre Lelouch et François Loncle. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Il y a le fait de qualifier presse torchon, presse de caniveau. Voilà, ça montre quand même un mépris profond des lecteurs de cette presse-là, qui sont quand même très importants. Closer, c'est 3 millions de lecteurs, c'est 9 millions en termes d'audience.
ce qui est intéressant, c'est un peu l'époque qui veut ça, d'une certaine façon. Hein. Le pouvoir politique aujourd'hui est heurté de plein fouet par, effectivement, la presse people, les révélations aussi des réseaux sociaux, les campagnes, l'espèce d'énorme maelstrom incontrôlable.
Que ce qui peut aller pour Closer ou pour Le Monde ne va pas forcément pour Match. C'est vrai que, nous, évidemment, l'instant où Match pourrait intervenir, serait si Julie Gayet et François Hollande étaient quelque part ensemble, main dans la main, ou avec un geste qui attesterait de la relation.